Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec vous, Olivier Bois, bonsoir.
Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir avec un invité exceptionnel ce soir, veille de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Alain Bernard est avec nous à 18h15, sacré en 2008 à Pékin, champion olympique sur la distance reine du 100 mètres nage libre. Il nous racontera ses 47 secondes, 21 centièmes qui ont changé sa vie, qui nous ont fait rêver et comment lui a vécu ses heures justement avant le début de la compétition. Avant cela, le jour et la chaleur en une ce soir. On l'a attendu, le soleil, il est bien là. On sera à Toulouse dans un instant avec Patrick Tégéro. Comment améliorer les systèmes de secours sur les numéros d'urgence? Le rapport d'enquête a été publié après les bugs sur le 15, sur le 17, sur le 112. C'était le 2 juin dernier. Orange n'était pas prêt à faire face. On rappelle que 6 personnes avaient perdu la vie, faute peut-être de pouvoir être pris en charge assez vite. La course contre la montre continue à l'Assemblée nationale et au Sénat pour tenter de faire adopter les mesures anti-Covid comme le pass sanitaire, qui rencontre de plus en plus d'opposition. Et puis plusieurs associations attaquent aujourd'hui l'État pour appeler à arrêter ce qu'ils appellent les contrôles aux faciès. On sera dans ce journal en direct avec l'avocat Slim Benachour à l'origine de cette procédure inédite en France. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Olivier.
On va donc être à Toulouse dans un instant où il fait chaud, mais les orages arrivent, Peggy.
Oui, demain, par l'ouest, ça concernera la Bretagne essentiellement. D'ailleurs, le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan sont en vigilance orange aux orages. Des orages beaucoup plus violents l'après-midi, beaucoup de pluie, de la grêle, de fortes rafales de vent. Et puis ailleurs, un temps sec avec des entrées maritimes, donc nuageux sur l'Aquitaine le matin, très beau ailleurs. Bien nuageux l'après-midi sur la façade atlantique, un léger voile sur le reste du pays. Et les orages vont arriver sur la partie centrale du pays en soirée. Ils risquent d'être localement forts. Les températures, elles seront en hausse à l'est, jusqu'à 36 à Grenoble, 35 à Toulouse, 34 à Montélimar, 31 à Strasbourg, Paris et Reims, 23 à Cherbourg. Et je rappelle qu'il y a toujours deux départements en vigilance orange crue, l'Oise et l'Aisne.
Merci beaucoup, Peggy Broche. En deux mots, vos rendez-vous d'ici 19h, les conseils télé comme tous les soirs d'Isabelle Morilly-Bosque, c'est à 18h25. Et puis les Dutron, père et fils, dans Laissez-vous tenter, ce sera à 18h45. Merci d'être avec nous sur RTL.
RTL Soir.
Il est donc là, et bien là, grand soleil aujourd'hui partout en France et la chaleur qui va avec. On l'a tellement attendu qu'on ne va pas se plaindre. L'un des records du jour, il était à Toulouse, autour des 36 degrés. Rien d'exceptionnel pour la région, mais on retrouve quand même une atmosphère, disons, plus conforme à la saison estivale, Patrick Tégéro.
Oui, c'est l'été qui s'installe enfin. Et quand il fait chaud à Toulouse, on fuit la fournaise du Capitole pour se retrouver à l'ombre des arbres centenaires de la place Wilson. David était un glacier.
Heureux, mais c'est presque trop chaud. Les gens quand même vont venir plus à la fraîche ce soir, mais quand même on bosse bien, on est content, il vaut mieux ça que de la pluie.
Et la glace fond dès que vous l'amenez sur la terrasse alors?
Il faut courir et manger vite, mais ça va, ça tient.
Anne Fleur est une de ses clientes hésitantes.
Je sais pas encore justement, ils ont pas mal de choix, mais sûrement du chocolat je pense. Je pense qu'on en profite justement pour se faire plaisir. Il fait très chaud mais on a eu pas mal de pluie avant, donc c'est normal, c'est l'été.
Augustin et ses amis ont choisi un banc stratégique à l'ombre et dans un courant d'air pour déguster d'énormes gaufres.
C'est juste par pure gourmandise. On a l'ombre, un peu d'eau fraîche et puis la casquette, la crème solaire, tout ce qu'il faut, ça va à peu près.
Bah, je viens de Lyon, ils avaient prévu 35 degrés à Lyon et là 37, donc c'est un peu dégoûté, mais au final ça passe très facilement.
Il y a la fontaine de la place Wilson et donc ça rafraîchit, on a l'impression d'être à la mer.
Alors si la nuit s'annonce pénible, largement au-dessus de 20 degrés, le très beau temps reviendra demain avant les orages, promis pour le week-end.
Merci Patrick Tégéro, correspondant RTL à Toulouse, où il a fait donc presque 36 degrés à Toulouse. Le record du jour, c'était à La Rouvière, dans le Gard. Il a fait très précisément 37 degrés 3. Alors malheureusement, notre été est perturbé par ce variant Delta qui gonfle une quatrième vague plus puissante chaque jour. Au Parlement, la course contre la montre continue, avec l'objectif pour le gouvernement de faire adopter le plus vite possible ces mesures anti-Covid, à commencer par ce pass sanitaire, dont les modalités d'application continuent d'être très discutées. Vincent Derosier.
Oui, des pressions très fortes de plusieurs députés, notamment pour que ce pass sanitaire ne soit pas réclamé en plein air, comme sur les terrasses des cafés, des restaurants, mais avec le variant Delta, c'est hors de question, répond Olivier Véran.
Lorsque vous êtes contaminé, vous, pardon pour l'expression, vous crachez du virus à tout va. Donc la question, est-ce qu'on peut se contaminer en terrasse d'un restaurant ou d'un café ? La réponse est oui.
amendements rejetés, donc tout comme ceux concernant les jeunes, les 12-17 ans. Une partie de l'opposition demande qu'ils ne soient pas concernés par ce pass. Là aussi, le gouvernement dit non avec le secrétaire d'État Adrien Taquet.
Les enfants sont des vecteurs du Covid. C'est la raison pour laquelle nous maintenons l'impératif à ce que les mineurs soient également soumis à cette obligation liée au pass sanitaire.
Un nouveau veto gouvernemental sur un sujet politiquement très sensible. D'ailleurs, Marine Le Pen, qui fait rarement le déplacement à l'Assemblée, essaye d'en tirer profit.
Je voudrais quand même attirer votre attention sur la situation des jeunes. Les jeunes qui ont été confinés, isolés, précarisés, qui pour beaucoup se sont retrouvés séparés de leur famille. Il s'agit là, à l'égard de notre jeunesse, d'une profonde injustice.
Mais parfois, les députés font aussi plier le gouvernement. Il y a moins d'une heure, ils ont voté contre le recours au pass sanitaire pour les patients non urgents et les visiteurs dans les hôpitaux et les EHPAD.
Merci beaucoup Vincent Derosier du service politique d'RTL. Sur la campagne de vaccination, elle doit encore s'accélérer. Plus de 5 millions de personnes souffrant de comorbidité ne sont pas encore vaccinées en France. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'assurance maladie, qui note tout de même une forte progression ces derniers temps. Alors l'espoir, on le sait, c'est qu'avec la vaccination massive, le nombre de formes graves soit plus limité que pendant les précédentes vagues et que le système hospitalier puisse in fine encaisser le choc. C'est ce qui se passe pour le moment en Grande-Bretagne, Marie Billon.
La remontée épidémique, le docteur Long Gongjo, urgentiste dans un groupe hospitalier du sud de Londres, il en a la preuve tous les jours. Mais cette troisième vague n'a quand même rien à voir avec la deuxième, assure-t-il.
On n'est même pas à ce niveau-là, on ne peut même pas comparer. En fait. Nous avons 41 malades au total dans l'hôpital, qui ont été hospitalisés avec la Covid. Et le mercredi de la fois passée, nous avions 17. Donc si vous regardez les statistiques, vous allez dire qu'il y a 100% d'admission en une semaine. Bon, mais quand vous regardez le nombre, en fait, c'est pas aussi alarmant que ce qu'on avait la fois passée, quoi.
Les plus gravement atteints, affirme le docteur Long Gongjo, sont les personnes âgées qui ont rejeté la vaccination. Son groupe hospitalier a enregistré 2 décès la semaine dernière. Mais la plupart des malades qui arrivent aux urgences, par contre, ce sont des jeunes, ceux qui n'ont eu accès à la vaccination que ces dernières semaines. La majorité rentre à la maison le jour même, précise-t-il. Alors même s'il s'attend à une augmentation du nombre de patients ces prochains jours, le docteur Long Gongjo ne prévoit pas que ces services seront à nouveau submergés.
Merci Marie Billon à Londres. Ceci dit, ils ont un autre problème, les Britanniques. Avec 50 000 cas positifs détectés tous les jours, des centaines de milliers de Britanniques se retrouvent cas contact et contraints à l'isolement. Et en une des journaux, aujourd'hui, s'affichent les rayons vides, par exemple dans les supermarchés. Faute de personnel, une partie de l'économie tourne en effet au ralenti. En bref, toujours le Maroc attaque en justice les organisations qui l'accusent d'avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus pour faire espionner des journalistes français ou des opposants politiques. Emmanuel Macron, dont l'un des numéros fait partie de ceux qui auraient pu être visés par une surveillance, a tenu sur la question un conseil de défense dont rien n'a filtré, si ce n'est la volonté de pousser plus loin les investigations. On va parler maintenant de l'une des conséquences économiques de la crise sanitaire. Pendant toutes les périodes de confinement ou de restrictions, les Français ont beaucoup plus épargné que d'habitude, 142 milliards d'euros de plus en 2020. Et ce magot attire la convoitise d'arnaqueurs en tout genre. Bonsoir Nerissa Emani.
Bonsoir.
L'association de défense des consommateurs voit d'ailleurs se multiplier ces dossiers de vol.
Oui, et tout commence sur les réseaux sociaux. Le consommateur est attiré par des publicités de banques qui promettent des livrets A avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 5%, soit 10 fois supérieur au taux actuel. Une fois sur le site, il faut donner ses coordonnées pour être rappelé par de faux conseillers bancaires, comme l'explique Guy Grand-Girard, président de l'association d'aide aux consommateurs de France.
Les personnes qui contactent les consommateurs utilisent des noms qui sont des noms frauduleux de vraies banques qui existent. Ce sont des clones. Et on est actuellement à 35 banques dont le nom a été détourné. Ce sont des banques en ligne. Parce que, en fait, il faut éviter que les clients aillent dans l'agence pour montrer les documents et qu'on leur dise « Mais attendez, on fait jamais ça ».
Car dès que le consommateur souhaite récupérer l'argent investi, la banque disparaît. L'association traite plus de 1900 dossiers et les arnaques au placement en tout genre augmentent depuis le début de la crise sanitaire.
On est à un préjudice pour les 6 premiers mois de l'année d'environ 30 millions d'euros. Sur ces 30 millions, on en a à peu près la moitié qui sont sur les livrets. C'est vraiment extrêmement considérable et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je constate un accroissement.
Alors pour éviter ces arnaques, l'association conseille de se méfier dès que le taux du livret dépasse 1% et d'envoyer un mail à la banque officielle pour vérifier que leurs produits existent.
Attention aux trop bonnes affaires. Merci beaucoup Nerissa Emani du service économique et social d'RTL. C'était le 2 juin dernier, une panne exceptionnelle sur les numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18, le 112, pendant toute une soirée et avec ce soir-là des conséquences dramatiques hein, puisque 6 personnes avaient perdu la vie, ils n'avaient pas pu être pris en charge rapidement. L'enquête montre aujourd'hui que l'opérateur Orange a été touché ce soir-là par une erreur sur une opération de maintenance et de surcroît par une panne de logiciel. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Mais surtout, ce rapport montre qu'Orange n'avait pas les procédures d'urgence adéquates.
Oui, l'opérateur a mis beaucoup trop de temps à réagir. Il lui a fallu une heure avant de comprendre que la panne touchait les services d'urgence. Pour éviter que ça se reproduise, le rapport préconise la mise en place d'une surveillance accrue pour ces appels prioritaires et vitaux. Aujourd'hui, leur bon fonctionnement n'est pas plus surveillé que celui des communications ordinaires. Orange est aussi épinglé pour sa lenteur à prévenir les autorités et à mettre en place une cellule de crise. Selon le rapport, il a fallu 2 heures. L'opérateur, conscient de cette faiblesse, était arrivé aux mêmes conclusions après sa propre enquête interne. Son objectif est de réduire ce délai à 30 minutes maximum. Face au manque de réactivité de l'entreprise, le rapport préconise aussi de réaliser régulièrement des exercices de crise au cours desquels serait simulé un grave dysfonctionnement. Tous les opérateurs devront y être soumis. Le premier est prévu dans les 6 mois à venir.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. En bref, Valérie Pécresse officialise sa candidature pour la présidentielle. Récemment réélue à la tête de la région Île-de-France, elle ne fait plus partie des Républicains, mais Valérie Pécresse se déclare favorable à la tenue d'une primaire.
RTL Soir, Olivier Bois.
C'est une première en France. Un collectif de 6 ONG, dont Amnesty International, a saisi aujourd'hui la justice à travers une action de groupe pour enjoindre l'État à cesser ce qu'ils appellent les contrôles d'identité au faciès par la police. Bonsoir, maître Slim Benachour.
Bonsoir.
Vous représentez précisément ces ONG. Vous lancez cette action parce que vous estimez en fait que rien n'est fait depuis des mois, voire des années sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Et nous utilisons un nouvel outil judiciaire qui s'appelle l'action de groupe, qui est assez connu outre-Atlantique sous la dénomination de class action. Il ne s'agit plus d'actions individuelles, même présentées avec collectivement, c'est-à-dire plusieurs dossiers individuels. Là, il s'agit d'une action de 6 organisations qui représentent en réalité les milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes concernées par les contrôles aux faciès.
Et qu'est-ce qui se met en route d'un point de vue judiciaire ensuite? Il peut y avoir des auditions, le ministre de l'Intérieur peut être amené à s'exprimer dans le cadre de cette procédure.
Alors c'est une procédure qui, l'introduction de la procédure se fait devant le Conseil d'État directement. Donc il s'agit de la plus haute juridiction administrative du pays. Et le Conseil d'État est maître de la procédure et c'est lui qui donnera le rythme et qui fera des demandes. Et au terme de cette procédure, nous aurons une audience comme vous les connaissez, c'est-à-dire une audience avec des plaidoiries.
Et il y a quelques mois pourtant, Emmanuel Macron s'était exprimé sur le sujet. Il avait lui-même reconnu que les contrôles aux faciès étaient une réalité. Il les avait condamnés d'ailleurs. Ses propos sont restés sans action derrière.
Oui, c'est le problème. Dire les choses, c'est bien, mais faire les choses, c'est mieux. Parce que là, on est en réalité dans l'incantation depuis des années. Tout le monde se plaint des contrôles aux faciès, tout le monde les reconnaît, mais rien n'est fait. Ce qui pose un sacré problème. Et donc, nous avons la solution grâce à l'action de groupe. À problème systémique, solution systémique. Et nous allons demander aux juges, au Conseil d'État, d'imposer une réforme qui va dans plusieurs sens, une réforme des contrôles d'identité en France.
Et on entend parfois des policiers, pas tous, hein, mais certains, dire on nous demande d'être présents dans les quartiers difficiles, où de fait, il y a une plus grande part de population ici de l'immigration, et donc ça se reflète sur les contrôles d'identité. C'est un argument à la fois que vous avez entendu auquel vous répondez quoi ?
On répond déjà que les autorités policières et politiques le savent. Les contrôles d'identité, même dans les quartiers que vous citez, ne donnent rien. Le taux de réussite, en réalité, de révélation d'une infraction à l'occasion des contrôles d'identité, c'est 3 à 4%. 3 à 4% des contrôles. Vous avez plus de 90% des contrôles qui ne donnent rien, et dans ces 3 à 4%, vous avez le fameux outrage et rébellion, c'est-à-dire que c'est le contrôle illégal de la police qui génère une infraction. Donc c'est une habitude, une pratique française qui n'existe pas ailleurs, hein. Le contrôle de routine n'est pas une fatalité, ça n'existe pas en Allemagne par exemple. Eh bien ce contrôle à la française, il est inutile, il est inefficace et il est dangereux. Hein, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé en 2005, et puis c'est dangereux aussi pour les policiers.
Merci beaucoup. Merci Maître Slim Benachour d'avoir été sur RTL avec nous ce soir. Je rappelle que vous représentez ce collectif d'ONG qui attaque donc l'État sur les contrôles aux faciès. En bref, l'ancien policier de la DGSI, des services de renseignement français, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir vendu sur le Darknet des fichiers de police confidentiels. Il se faisait appeler aux Russes et il a été aujourd'hui incarcéré. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh bien, la bonne nouvelle du jour, c'est l'optimisme des Français qui croient en nos champions à Tokyo. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir Olivier.
Notre sondage Odoxa, Kenéo, RTL est très clair. Les Français y croient, ils font confiance notamment au judoka.
Un troisième titre pour Teddy Riner, une première consécration olympique pour Clarisse Agbenienou. 31% des Français, 36% des amateurs de sport pensent que c'est en judo, effectivement, que la France remportera le plus de médailles. Les judokas tricolores en avaient gagné 5 à Rio. 55% des Français, 81% des amateurs vont suivre ces Jeux de Tokyo. Une très large adhésion qui ne souffre pas du décalage horaire, plus 7 heures au Japon. Il faudra être souvent matinal pour ne rien manquer des compétitions. Bien sûr, on observe un regret lié au huis clos. 52% des Français regrettent l'absence du public dans les stades. 46% estiment, cela dit, que cela ne changera rien à l'intérêt qu'ils porteront à l'événement. Mais revenons aux médailles, qu'ils soient férus ou non de sport. Les Français, dans leur majorité, pensent que l'équipe de France olympique ne battra pas son record de médailles établi à Pékin en 2008 avec 43 récompenses. Il y en avait 42 en 2016 à Rio. Aux 166 femmes et 212 hommes qui composent la délégation, de déjouer les pronostics. Faites vos jeux, les jeux ne sont pas encore faits.
Merci Jean-Michel Rascol. Je ne sais pas si on aura une médaille en football, mais en tout cas c'est pas bien parti. L'équipe de France a joué son premier match et a perdu 4-1 contre le Mexique aujourd'hui. André-Pierre Gignac a marqué un pénalty, mais il reconnaît qu'il va falloir tout changer à peu près.
Aujourd'hui, on a manqué de tout. On a manqué de concentration, on a manqué d'agressivité dans le bon sens du terme. On a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. C'est une vraie grosse contre-performance. Il faut aller chercher cette qualif. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on a envie. On sait ce qu'il nous faut, les ingrédients qu'il faut mettre pour les prochains matchs. Et j'espère que tout le monde va se mettre au diapason parce qu'on n'a pas envie de rentrer en France après le troisième match.
Voilà la déception d'André-Pierre Gignac. Et puis sachez que Stéphane Carpentier recevra demain matin à 7h40 les deux porte-drapeaux français. Donc avant la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, il recevra Clarisse Agbenienou et la judoka et le gymnaste Samir Aït Saïd. Il est 18h17 sur RTL. On va faire une courte pause. Et dans un instant, Alain Bernard nous fait l'honneur d'être l'invité d'RTL Soir, le champion olympique de natation. Évidemment, c'était à Pékin en 2008. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
L'invité d'RTL Soir, il nous fait l'honneur d'être avec nous en cette veille de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Bonsoir Alain Bernard.
Bonsoir.
Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Faut-il le rappeler, vous, c'est le 14 août 2008 que vous êtes entré dans la légende du sport français au JO de Pékin. Sacré donc champion olympique sur la distance reine, le 100 mètres nage libre. Tiens, on va écouter quelqu'un, vous allez reconnaître la voix.
Alain Bernard, champion olympique, 47 secondes, 21 centièmes, extraordinaire. Il l'avait dit, il le ferait. Il est champion olympique sur la distance reine.
Isabelle Langer en fusion ce soir-là. Quand vous entendez ça, Alain Bernard?
Je me dis, j'ai eu la chance de le faire, de pouvoir concrétiser mes efforts et de réaliser mon rêve. Donc, c'est vraiment tout ce que je souhaite à tous les sportifs qui s'engagent dans leur projet au quotidien.
Et d'ailleurs, vous y pensez, à pas y penser comme ça, comme un flash, certains jours?
Alors, oui, bien sûr. Après, ça fait vraiment partie de ma vie et paradoxalement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça à certains moments, tellement c'est une vie prenante, mais pleine de doutes, d'appréhension, de crainte, d'échecs. Et finalement, quand on réussit, on se dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Ah ben oui, c'est moi. Donc on a du mal à le croire, mais en effet, j'ai encore et toujours des flashs et des bons souvenirs.
Est-ce que d'un seul coup, ça donne un sens à tous les sacrifices que vous avez faits, toutes ces heures dans la piscine à vous entraîner? Tout ça fait sens d'un seul coup?
Je préfère parler de concession que de sacrifice parce que j'ai fait ça par choix et par conviction Et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir un entraîneur extraordinaire à qui je fais un clin d'œil, c'est Denis Auguin, qui a cru en mon projet avant même que je n'y croie moi-même. Donc, il m'a fait prendre conscience. Souvenir extraordinaire. On souhaite encore une fois que ça arrive à tout le monde, tellement le bonheur est extra, quoi.
C'était la première fois que vous alliez au jeu cette année-là. Racontez-nous, justement, ces quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, là, c'est demain à Tokyo. Comment vous avez commencé à ressentir l'événement, commencé à le vivre?
Alors c'est vrai que c'est un événement extraordinaire. Il y a un côté où on se dit bon ben on peut pas participer à la cérémonie d'ouverture parce qu'on nage dès le lendemain. La plupart des nageurs en fait c'est cette situation qu'ils vont vivre. Néanmoins il y a les cérémonies des photos où on a les costumes, les tenues de défilé, les séances photos avec les autres athlètes, les autres nageurs, les entraîneurs. Et là on se rend compte que chaque pays et chaque discipline en fait sont vraiment extrêmement fiers de représenter leur couleur et leur pays. Donc c'est ce brassage de population qui est vraiment extraordinaire à vivre, même si on sait que le contexte sanitaire cette année fera en sorte que ce soit des jeux très particuliers. Mais c'est ça la magie justement des Jeux Olympiques.
Et ça vous avait surpris de le voir, ça? Vous n'aviez pas anticipé la puissance de l'événement?
Non, on a tendance à se projeter, à imaginer les choses, mais quand on le vit, quand on ressent l'atmosphère, quand on voit l'ambiance et on voit qu'il y a vraiment... Tout le monde est heureux et content d'être là et tout le monde mérite sa place. C'est ça qui est extraordinaire, voilà, c'est que du bonheur.
Et vous avez commencé à l'évoquer, ça vous fait bizarre d'imaginer justement précisément comment les athlètes le vivent cette année. Évidemment, ce village olympique qui est très différent, les masques, on entendait les témoignages d'athlètes qui disent on se reconnaît à peine, il faut regarder les badges pour savoir à qui on a affaire.
Oui, alors j'ose pas imaginer comment est-ce qu'ils peuvent appréhender cela. Néanmoins, j'ose espérer qu'ils soient contents de pouvoir participer néanmoins à ces Jeux Olympiques qui étaient vraiment sur la sellette jusqu'au dernier moment. Le fait qu'ils soient repoussés d'un an, c'est bien mieux, je pense, qu'ils soient annulés. Ça a permis à certains jeunes peut-être de pouvoir saisir le coche et de se qualifier, de participer à cette aventure olympique. Ça a, à contrario, par contre, eu raison de certains athlètes qui étaient en fin de carrière, qui étaient en limite d'âge et de progression en termes de performance. Voilà, le plus important, c'est qu'il faut que ça reste une fête ou une capacité de s'exprimer aux yeux du monde entier.
Et l'absence de public?
L'absence de public, oui, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer cela dans les stades, dans les piscines, dans les différents lieux, pour savoir s'ils vont mettre un son d'ambiance comme oui. Ils l'ont mis sur certains matchs de foot là, à la sortie des confinements. On ne sait pas trop ce que ça va donner comme ambiance. Voilà.
On verra ça au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement vos souvenirs de village olympique précisément, dans une ambiance tout à fait différente? Évidemment, là encore, c'est vraiment un lieu, un moment incroyable pour un sportif de haut niveau.
Bien sûr, c'est un lieu, encore une fois, d'échange, de rencontre, de diversité culturelle, de diversité de morphologie. Pour la petite anecdote, en fait, je me souviens très bien d'une séance de sport qu'on avait fait dans la salle de musculation du village olympique. Et on a l'impression d'être dans Star Wars et sur la planète Namek avec des gabarits complètement différents. Entre des haltérophiles colombiens et des gymnastes américaines qui faisaient le triple du gabarit par rapport les uns par rapport aux autres. On se dit, mais où est-ce qu'on est au milieu de tout ça? Et encore une fois, c'est la force de ces Jeux Olympiques, c'est d'avoir des cultures complètement différentes, des sportifs de morphologie différente dans un seul et même endroit.
Est-ce que vous avez un souvenir de sportif en particulier que vous avez croisé, qui vous a marqué?
Oui, il y a quand même on croit quand même beaucoup de stars quand même aux Jeux Olympiques. Et moi, à mon époque, en 2008, c'était vraiment l'essor de Usain Bolt. Donc Usain Bolt est rentré dans le grand réfectoire où on mangeait tous et tout ça, c'était un peu la folie, mais en même temps les athlètes assez respectueux et lui qui se pliait au jeu, des petites photos et des petits moments partagés avec différents athlètes.
Dans votre sport, la natation, les JO, c'est le rendez-vous qui est au-dessus de tous les autres?
Oui, clairement. On a réussi, je pense, à faire en sorte que la natation française existe entre deux Olympiades à partir des Jeux Olympiques de 2004 et les fameuses médailles de Laure Manaudou, Solène Figuès, Hugues Dubost, Maya Metella et tous les autres résultats des nageurs français. On a quand même réussi à avoir une visibilité médiatique entre ces deux Olympiades, mais ça reste quand même l'un des sports phare des Jeux Olympiques parce que fort pourvoyeur de médailles, en fait, c'est une discipline qui permet à une nation de remporter beaucoup de médailles puisqu'il y a beaucoup d'épreuves. Et c'est toujours aussi spectaculaire de voir des nageurs de haut niveau.
Et vous avez une visibilité sans précédent. J'imagine que la une du quotidien L'Équipe reste aussi un souvenir, un grand souvenir pour vous le lendemain.
Ah oui, c'est vrai que moi j'avais vécu ça vraiment à distance et j'ai su après coup en fait que j'étais l'un des athlètes les plus médiatisés aussi des Jeux Olympiques. Alors est-ce que c'est la force du 100 mètres nage qui fait ça ou pas? Mais j'étais le troisième athlète le plus médiatisé après Usain Bolt et Michael Phelps. Donc même encore aujourd'hui j'ai du mal à le croire. je vous fais juste une petite confidence parce que voilà, c'est un petit teasing. Je suis en train de finaliser mon autobiographie qui va sortir au mois de novembre et j'ai hâte de pouvoir extérioriser et raconter tout ça et notamment quelques anecdotes au sein du village olympique.
Eh bien, vous reviendrez à RTL pour en parler. Un dernier mot, est-ce que vous êtes encore une sorte de grand frère pour les nageurs et comment vous allez suivre d'ailleurs ces Jeux olympiques? Vous voyez Florent Manaudou parvenir à être sacré. Est-ce que vous avez encore un lien avec les générations actuelles?
Alors j'ai un lien encore et toujours avec le monde de la natation parce que j'organise des stages avec des jeunes là où je suis entier, mais avec cette génération-là en équipe de France, oui, quand on se croise, je pense qu'il y a énormément de respect mutuel, que ce soit des jeunes comme Maxime Grousset ou des cadres comme l'équipe, de l'équipe comme Florent Manaudou. Je sens qu'il y a énormément de respect, en tout cas moi j'ai beaucoup de respect pour eux. Et voilà, j'essaie de faire en sorte de leur donner, quand c'est possible, des conseils, mais ils sont suffisamment grands pour voler de leurs propres ailes et de nous faire rêver à leur tour, quoi.
Merci beaucoup Alain Bernard, vraiment, d'avoir été avec nous sur RTL ce soir pour nous parler de ces 47 secondes, 21 centièmes qui ont changé votre vie et qui nous ont fait rêver. C'était en 2008 à Pékin. À très bientôt Alain Bernard sur RTL.
Merci, merci. Au revoir, merci.
Et on accueille maintenant Isabelle Morini-Bosque. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On parle télé dans un instant avec vous. Une petite pause. À tout de suite.
Sur RTL.
À demain.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et à 18h28 sur RTL, on est donc avec Isabelle Morini-Bosque à la télé ce soir. Alors Isabelle, hier soir vous nous avez massacré le feuilleton L'Ami Prodigieuse sur la 2. Et comme quoi votre influence est incroyable puisque ça n'a pas marché hier soir.
Eh bien, je vous l'avais dit, hein, c'est fait pour la critique, pas pour le grand public. Donc moins d'1 700 000 téléspectateurs, ce qui est peu vu le battage médiatique. Comme dit l'autre, tout le monde adore, sauf le public dont je suis. Passons.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Passons surtout à ce soir avec Si c'était mon fils sur M6, un polar que, en revanche, j'ai beaucoup aimé, sur un thème éculé, hein, la quête et l'enquête d'une mère persuadée que le garçon qu'elle a vu dans la rue est son fils disparu 9 ans plus tôt au bord d'un lac, d'où le sujet bateau. Personne ne l'écoute, surtout pas son ex-mari.
Ben,
qu'est-ce qu'il y a ?
Tu vas croire que je suis folle, mais je viens de le voir.
Qui ça ?
Notre fils.
Je comprends pas.
Il allait à l'école, mais je sais que c'est toi. Il a les mêmes cheveux bouclés, la même démarche.
Alors, on est d'accord, il y a de vraies incohérences, mais la force de ce polar, c'est qu'on les voit et qu'on s'en fiche. On est pris et surpris par les nombreux rebondissements qui font regarder les 4 épisodes d'une traite, tous programmés ce soir, avec un coup de théâtre final justifiant mon coup de cœur. C'est formidable. Autre temps fort, le documentaire de la 5, des trains pas comme les autres, en Colombie, un pays avec peu de voies, beaucoup de voies ferrées désaffectées, peu de trains, peu de réseaux routiers. Conséquence, les Colombiens utilisent les rails comme des routes. Ils posent tout dessus, même des meubles, et ils font glisser. C'est ce qui s'appelle trouver sa voie. Ferré, évidemment.
Est-ce que vous nous réservez une surprise ce soir?
Oui, alors nous sommes le 22 juillet. Et depuis dimanche, les médias étrangers, télé, presse écrite, célèbrent via de nombreux spéciales et portraits une artiste française dont c'est l'anniversaire. Dominique Tenza en a parlé ce matin. Et les plus importantes chaînes allemandes et russes ont envoyé aujourd'hui en France des équipes pour fêter ses 75 bougies, 55 ans de carrière, 200 millions de disques vendus et 1200 chansons en 12 langues. Vous voyez de qui je veux parler ?
Vous avez un indice en plus ? Non, on l'écoute ou pas ?
Si je vous dis que ça se passe vers Avignon.
Allez, Mireille Mathieu, je tente ma chance.
Exact, gagné. Et je l'ai appelé ce matin, pendant que les télés étrangères installaient leurs caméras. Et bien sûr, d'abord, bon anniversaire, Mireille.
Ah, merci.
Comme j'ai pas votre voix, je me garderai bien de chanter. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cet anniversaire ?
Que ça continue. Je fais mes vocalises tous les matins. La scène me manque beaucoup. Le contact avec le public me manque beaucoup. Les concerts qui sont prévus dans certains pays, c'est extrêmement compliqué vu le contexte actuel.
Si je vous appelle aussi aujourd'hui, c'est que je m'intéresse aux médias étrangers et que les médias étrangers aujourd'hui viennent vous voir.
Oui, j'ai la télévision russe, la télévision allemande, la presse. J'ai beaucoup de télévision.
J'ai même cru comprendre que le chef de l'État russe, vous avez écrit.
Monsieur Poutine a souligné mon intérêt pour la culture et l'histoire russe. Et aussi ma contribution pour de bonnes relations entre nos deux pays. Je suis très fière. Il n'y a rien de politique. J'ai la chance d'être aimée par le peuple russe. Hier et avant-hier, il y a eu une grande émission en Allemagne également. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment.
Bon, mais alors, le programme précis aujourd'hui?
Parler en russe, dobre vech, dame i gospoda, guten Abend.
Et vous allez chanter en russe, non?
Si on me demande, je peux chanter. Как бы я вас, как бы я вас, снату видел вас, бене добрый час. J'espère que le son est bon pour la technique. Je vous embrasse sans oublier Alain. Pour dire à nos amis qui nous écoutent, Alain, c'est votre mari.
Oui.
Voilà.
Il fait de l'usage. Voilà. Vous en trouvez beaucoup
voix,
des chanteuses qui, comme ça, à 10h du matin, sans entraînement ni rien, poussent la chanson a cappella.
Et bon, on lui souhaite un bon anniversaire, oui, à Mireille Mathieu.
Vraiment, j'aime beaucoup cette femme.
Merci pour ce témoignage et ces mots réjouissants. Elle a la forme, Mireille Mathieu.
Toujours.
Allez, à demain, Isabelle Morini-Bosque. Il est 18h31.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et l'essentiel de l'actualité, contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté contre le recours au pass sanitaire pour les patients non urgents ou pour les visiteurs dans les établissements de santé, dans les maisons de retraite. Les débats sur ce pass sanitaire sont plus longs que prévu à l'Assemblée et au Sénat. Le gouvernement pourrait avoir le plus grand mal à boucler avant la fin du week-end comme prévu. Sur la campagne de vaccination, elle doit encore s'accélérer. Plus de 5 millions de personnes souffrant de comorbidité ne sont pas encore vaccinées en France. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'assurance maladie. Bref, le Maroc attaque en justice les organisations qui l'accusent d'avoir eu recours au logiciel israélien Pegasus pour faire espionner des journalistes français ou des opposants politiques. Et puis c'était le 2 juin dernier, une panne exceptionnelle sur les numéros d'urgence, le 15 notamment, pendant toute une soirée, avec ce soir-là des conséquences dramatiques, puisque 6 personnes avaient perdu la vie, ils n'avaient pas été pris en charge rapidement. L'enquête montre que l'opérateur Orange a été victime d'une panne de logiciel et que ses procédures d'urgence n'étaient pas prêtes. Valérie Pécresse officialise sa candidature pour la présidentielle, mais elle reste favorable à la tenue d'une primaire. Et puis, c'est la cérémonie d'ouverture demain à 10h aux Jeux Olympiques de Tokyo. On suivra ça évidemment. Et Stéphane Carpentier, d'ailleurs, demain matin dans RTL Matin, recevra à 7h40 Clarisse Agbenienou, la judoka, et Samir Aït Saïd. Ce sont les deux porte-drapeaux cette année. À noter quand même que l'équipe de France de football a perdu 4-1 pour son entrée en compétition ce matin face au Mexique.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Et demain. Et demain.
Allez, après un an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose, vous le savez, chaque soir, un regard vers l'avenir, un entretien avec une personnalité, comment le Covid a bouleversé nos vies et comment surtout préparer la suite. Et aujourd'hui, Guillemette Franquet rencontre le navigateur François Gabart.
Bonjour François Gabart.
Bonjour.
La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous ?
Bien, très très bien. Non, je suis très très heureux parce que voilà, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. De renaviguer à nouveau avec une perspective d'une belle Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Donc je suis bien, clairement.
Vous n'avez pas pu naviguer pendant une certaine période. La mer, ça vous a manqué ?
Oui, oui, clairement, la mer, ça m'a manqué. Alors, il se trouve que cette année 2020, elle est très particulière parce qu'en fait, en début d'année 2020, je suis extrêmement fatigué. J'ai enchaîné beaucoup de courses pendant plusieurs années. J'ai une potentielle course en solitaire. Et voilà, je me dis que c'est peut-être la course de trop. Et puis, il se trouve que la crise arrive, que finalement, cette course n'a pas lieu. À ce moment-là, finalement, je me ressource. Je refais ce plein d'énergie dont j'avais besoin. Puis finalement, très, très rapidement, j'ai envie de retourner sur l'eau. Tellement envie à nouveau de renaviguer. Peut-être un bien pour un mal, cette petite pause. Et je pense que c'est un vrai bonheur de retrouver tout ça.
J'avais noté que vous aviez dit ça. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est dans la difficulté qu'on apprend, qu'on innove. Vous avez l'impression, vous, que vous avez quand même réussi à apprendre et à innover ?
Je suis convaincu de ça, c'est-à-dire que le sportif que je suis ou éventuellement l'entrepreneur, et forcément c'est quand on est face à une difficulté qu'il faut trouver des solutions. Tout bêtement, alors sur un bateau très concrètement, souvent c'est quand on a un problème ou quand on a une contre-performance qu'il faut trouver des solutions pour passer au-delà, pour progresser.
Voir la vie du ciel, tout effacer, ne rien recommencer. Essayer de trouver pour s'éloigner de l'enfer un bateau rose et vert qu'on enterre dans la mer.
On a vécu cette crise, mais on en vivra d'autres, hein. Il faut faire face.
Si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, vous choisiriez lequel ?
Difficile de trouver un mot positif. J'aimerais trouver un mot positif. J'ai envie de dire un monde nouveau. On en a beaucoup parlé avant, après. Il y aura deux fêtes dans nos sociétés, un avant et un après. Quel qu'il soit, et je le connais pas, mais il y aura un avant et un après. Donc changement.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier qu'on aura dans le monde de demain ?
Zoom, on l'avait déjà, mais les visios, une plus grande conscience de notre vulnérabilité, une forme d'humilité par rapport à notre environnement, par rapport à notre planète. C'est en effet un sujet qui, moi, qui me turlupine quelque part depuis que je suis gamin. J'ai du mal à comprendre certaines choses, le rapport qu'on a avec notre planète, avec notre environnement, avec le vivant autour de nous, vivant animal. Il est pas sain aujourd'hui. Et on a la possibilité, nous, humains, de changer les choses.
Est-ce que vous, il y a un son, une musique qui vous a accompagné, qui a été présente pendant cette période, qui vous a peut-être apaisé?
Oui, j'ai écouté beaucoup de musique. Par contre, au final, et on en parlait, ce rapport que j'ai avec la mer et avec la nature, que j'ai eu la chance de vivre à la campagne, donc quelque part, le bruit de la nature, le bruit des oiseaux, le bruit des arbres, ce bruit d'une nature un peu calme m'a fait énormément de bien. Et j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi au milieu des vignes charentaises, dans les arbres, près des rivières. Ça fait partie de moi.
Merci beaucoup François Gavard.
Merci.
Merci Guillemette Franquet, et à demain vous serez avec la comédienne humoriste Bérangère Krief. On va faire une pause et dans un instant les petites histoires olympiques de Jean-Michel Rascol. On est à Moscou, 1980, l'URSS prête à tout pour gagner des médailles et qui tentait même de truquer la force du vent dans le stade olympique pour gagner au javelot. Incroyable, à tout de suite sur RTL.
RTL Soir. RTL Soir, Olivier Bois.
Et à 18h39, les petites histoires olympiques. Nous allons partir donc à Moscou en 1980, en pleine guerre froide. Les JO sont aussi un enjeu diplomatique et l'URSS est prête à tout pour décrocher les médailles, même à tenter de contrôler la puissance du vent. C'est l'histoire que vous nous racontez ce soir, Jean-Michel Rascol.
Et les petites histoires olympiques, Jean-Michel Rascol sur RTL.
En 1980, l'URSS entend faire des Jeux de Moscou une démonstration de force, quitte à bafouer l'équité sportive. Dans le stade Loujniki, les soviétiques avaient par exemple imaginé un stratagème pour fausser l'épreuve du javelot. Le perchiste français Philippe Houvion, qui était présent, se souvient.
Ce grand stade de Moscou, ce stade monumental, avait quatre très grandes portes qui font varier les flux de vent. Et pour le javelot, par exemple, la direction du vent est très importante parce que le javelot s'appuie sur du vent de face comme les avions pour voler le plus longtemps possible. Et donc en fonction de qui lançait le javelot, puisque ça se fait dans la longueur du stade, ils ouvraient ou ils fermaient les portes monumentales du côté pour faire varier le vent, soit le faire porter un javelot, soit le faire partir sur le côté pour les autres.
Deux soviétiques prirent les deux premières places. Un certain Denis Kula fut même le seul à lancer à plus de 90 mètres. Un champion olympique pour le moins inconnu jusque-là.
Qu'on ne connaît pas avant et qu'on ne connaîtra plus après. Donc c'était son jour. Peut-être qu'il était ultra motivé. Hein. Il y a d'autres exemples que ça. Moi j'ai vu des trucs aussi au lancer du disque. Ils ont favorisé les athlètes soviétiques, ça c'est clair.
Sur le sautoir de la perche, un dispositif était censé avantager là aussi les athlètes de la mère patrie.
Il y avait un système de remontée de barre particulier qui était une paire de pinces qui remontait la barre le long des poteaux et qui venait la placer sur les taquets. Et quand les Russes sautaient, ils ne desserraient pas les pinces pour que la barre reste attachée. Bon. Mais il y avait tellement de triches, je me souviens. Les Jeux Olympiques de Moscou sont pratiquement les seuls Jeux Olympiques où il y a eu zéro cas positif, tout sport confondu, ce qui n'existe pas en vrai. Ça fait rêver, mais ça n'existe pas. Et on ne se posait pas la question à l'époque. Ça fait seulement quelques temps que j'ai conscience que les trois mecs qui étaient devant moi étaient probablement shootés. Bon, en athlée, il y a moyen de faire le coup des portes au javelot. Et effectivement, celui qui est lésé, il est lésé. Et ça fait 4 ans de sa vie qu'ils sont paumés, quoi, ou presque. Sa vie sportive, en tout cas.
À Moscou, les Soviétiques gagneront 195 médailles, 80 en or. Le boycott des États-Unis et d'une soixantaine de pays n'est donc pas la seule explication à cette hégémonie.
Merci beaucoup, Jean-Michel Rascol. Encore une histoire incroyable ce soir. Et merci au passage, à Spencer Clairfeuille qui a réalisé, qui a mis en onde, comme on dit, toutes ces chroniques, et en particulier celle-là. Là voilà la petite musique de Laissez-vous tenter en mode estival. On va retrouver donc tous nos amis et Stéphane Carpentier avec aujourd'hui les Dutron, père et fils.
La musique en priorité pour se laisser vous tenter version été avec Steven Bellery. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
C'est un duo qui a marqué la saison musicale. Il rassemble les Dutron, père et fils, Jacques et Thomas Dutron, qui ont accepté de se confier à votre micro.
Oui, mais un entretien virtuel. Hein. Les deux chanteurs étaient confinés chacun dans leur maison encore. C'était assez cocasse, mais une conversation croisée tout de même à bâton rompu. Fort du succès de son album de reprise Frenchie, qui approche les 100 000 ventes, Thomas Dutron est retourné en studio. 6 nouveaux duos ont été enregistrés. L'un d'eux est une nouvelle version du Petit Jardin, chanson de Jacques Dutron sortie en 1972 sur son 6e disque. Parole Jacques Lanzmann. J'ai demandé à Dutron senior, rare au rayon disque ces dernières années, s'il avait hésité avant d'accepter ce duo.
De toute façon, je dis oui très rapidement, mais en même temps que le oui est prononcé, je gamberge déjà qu'on a annulé. Non, mais de toute façon, bien sûr. Quoique je n'aime pas beaucoup cette chanson.
Comme il a dit oui, c'était trop facile, alors je me suis dit que j'allais lui proposer une chanson qu'il n'aimait pas. Non, mais c'est vrai que mes deux parents n'aiment pas trop cette chanson, et justement, c'est pour les emmerder, parce que moi, je la trouve superbe. J'adore la mélodie. Enfant, elle m'est tout de suite rentrée dans la tête. C'est une mélodie que tout le monde adore, d'ailleurs, qui est magnifique. Et puis, je trouvais que les paroles étaient marrantes aujourd'hui. Ce côté rétro-écolo était bien. Et puis, j'avais envie de réhabiliter cette chanson aux yeux de mes parents. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en plus, avec le groupe un peu jazzy, ça s'y prête très bien. Enfin, c'est une super mélodie. Moi, je suis fan de cette chanson. Voilà.
Pourquoi vous l'aimez pas, Jacques ?
Je ne sais plus pourquoi, hein, mais ça date de longtemps. Non, puis le sujet aussi me faisait un peu. C'était pas mon truc vraiment, là. Genre écolo et tout ça.
Pourquoi vous étiez pas écolo, Jacques, à l'époque ?
Si, mais naturellement. Mais de la dénoncer en chanson, ça faisait un peu militant. Enfin, ça paraît désuet maintenant, parce que à la Chaussée d'Antin, là, puisqu'il s'agit de la Chaussée d'Antin dans la chanson, on parle d'un petit jardin, de justement des parkings maintenant avec plein de bagnoles, alors que c'est faux totalement. J'y suis repassé, bien entendu, des boutiques de fringues, c'est incroyable, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il y a une boutique qui fait telle taille et l'autre peut-être telle taille, enfin je sais pas.
Aujourd'hui, vos rapports à l'écologie, tous les deux, ils sont comment, Jacques ? Vous faites attention à ça ? C'est quelque chose qui vous traverse l'esprit de temps en temps ou alors pas du tout ?
Je vous ai dit, c'est naturel, hein. D'ailleurs, j'ai un sac de piles qui date de 20 ans. Si ça intéresse un collectionneur...
Non, mais ça
si
doit être radioactif, le truc.
Oui, bah, d'ailleurs, par moment, je suis phosphorescent. Bon. Non, mais ramasser un gobelet dans la rue, je veux bien, mais bon, il y a d'autres soucis sur Terre.
C'était un petit jardin qui sentait pour le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin.
Avec deux arbres, un pommier et un sapin.
Au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin,
passa un homme qui au revers de son veston
portrait une fleur de béton.
Dans le jardin, il le voit chantant.
De grâce, monsieur le promoteur.
De grâce, préserve. Cette grâce,
de grâce, de grâce, monsieur le promoteur.
Ne coupez pas mes fleurs.
Le Petit Jardin, revu et corrigé par Jacques et Thomas Dutron, ambiance plus jazzy, les guitares plus présentes que dans la version originale. Quels souvenirs sont remontés après avoir réenregistré une ancienne chanson ? C'est la question que j'ai posée à Jacques Dutron.
Non, mais moi, je ne pense pas à la chanson. Je pense plutôt au quartier de la Chaussée d'Antin, ou de la Trinité. Bon, c'est pas un retour à la case départ, quand même. Mais
Donc, il y a une petite pointe de nostalgie.
Oui, un peu, mais je ne pense pas au promoteur, en tout cas. Je pense juste au square de la Trinité, la rue de la Chaussée d'Antin, etc. Avec la boutique italienne pour l'Astri. Plus un bijoutier. Enfin, il y avait tout. Là. C'était bien un cordonnier génial. Et puis des putes, attention.
Chanter ensemble, Thomas, Jacques, ça vous amuse ou ça vous émeut plus ?
Ouais, je préfère dire amuse parce que émeut, c'est laid. Ça m'émeut. Ça m'émeut.
C'est émouvant.
Ah bon, bah alors moi aussi.
Ah ouais, ouais. Mine de rien, tu t'es vachement impliqué. Enfin, c'était complètement pliqué.
Oui, c'est pareil, compliqué aussi.
Mais c'était super. Et du coup, ça m'a ému que tu fasses pour moi comme ça, si gentiment, vraiment. Tu l'as fait avec tout ton cœur. Tu voulais que ce soit bien, vraiment. C'est super gentil, quoi.
Justement, en studio, ça se passe comment? Tous les deux, ça va vite? C'est instinctif ou ça prend du temps?
Ça va vite, enfin, en principe.
On a mis combien? 2 mois pour enregistrer cette chanson? Ça va, c'est assez rapide.
Ouais, ça a 2 mois pour...
Nuit et jour, on dormait une heure, deux heures. Non, mais ça a été un peu de boulot parce qu'en studio, on n'a pas eu beaucoup de temps avec tous les musiciens, le Steinway, le machin. Et on a travaillé une version comme des dingues où après coup, en réécoutant 2-3 jours après, on dit « Putain, ça va pas, en fait, le tempo, c'est trop rapide, c'est pas du tout l'ambiance qu'on voulait. »
Et vos voix, comment vous trouvez que vos voix se marient?
J'avais compris vos foies, tu vois. Et vos foies, comment vont vos foies?
Oui, d'ailleurs, il aurait pu faire les deux voix.
Est-ce que Françoise a entendu votre duo? Alors, est-ce qu'elle a entendu cette chanson qu'elle n'aime pas beaucoup non plus?
Elle a trouvé ça très bien. J'étais un peu surpris qu'elle critique pas à mort ou dire c'est épouvantable et tout ça, mais elle a trouvé ça vachement bien. C'est pas ce duo-là qu'elle préfère de mes nouveaux duos pour l'édition spéciale, c'est un autre, mais bon, elle a des goûts très particuliers.
Particuliers, oh, là, quand même.
À part en matière d'homme, évidemment.
Jacques, le résultat, vous en pensez quoi?
Non, j'aime bien, je fais abstraction de ce que je pensais avant par rapport au texte et tout ça, non, ça va. Là. Et la troisième version sera alors là...
Steven, on l'entend, hein, ce nouveau duo est une preuve supplémentaire de la vraie complicité musicale qui lie Jacques et Thomas Dutronc.
Oui, entamé en 1995, Thomas a 22 ans et signe 3 textes pour l'album Brève rencontre de son père. Les deux artistes ont chanté Les Cactus à la télé ou un premier duo sur l'album Éternel jusqu'à demain de Thomas, sorti il y a 5 ans. Mais la vraie étincelle, c'est peut-être cette guitare que le père avait offert à son fils, alors âgé de 17 ans.
Je vais offrir une guitare, alors, mais il avait dû m'en voler combien avant, parce que... C'est plus, c'est la Selmer ou pas, je sais plus.
Non, quand j'ai manifesté de l'intérêt pour les guitares, tu m'as offert une guitare nylon, là. Je faisais que de la guitare au début, hein. La chanson s'est tombée dessus comme ça, un peu par hasard, j'aurais même pas dit, il savait même pas.
Non, moi je l'ai su au bar, là, sur la terrasse, et qui, c'est pas ton producteur, qui revient de Calvi, il me dit, ça s'était super bien passé, Thomas avait une voix magnifique. Je comprenais pas, moi je me disais, c'est peut-être, j'ai bu trop de bière, ou je sais pas quoi. Je l'ai fait parler, il me dit, mais Thomas chante. Et c'est là où j'ai appris ça, je ne savais pas du tout. Dans ma tête, tout de suite, ça a tourné vite. Je me suis dit, pourvu qu'il n'abandonne pas la guitare. Quand on chante, on est quand même plus peinard que de trimballer ses guitares, les étuis, tout ça. Bon, il faut se méfier. Il ne faut pas laisser tranquille. Hein. Il faut toujours la chatouiller, tu vois.
On pourrait toujours la chatouiller plus, mais j'adore ça. Ouais. Je suis mordu. Rien à faire.
Mais est-ce que vous êtes fier aujourd'hui, Jacques, de la carrière de Thomas? Frenchy est devenu encore disque d'or. C'est quand même superbe.
Bah ouais, sauf que les disques d'or, ça se limite hein, maintenant. On va arriver à 10 000 maintenant. À mon époque, c'était vraiment 1 million. Et maintenant, je ne sais plus combien c'est. Non, mais bien sûr, c'est bien. Mais il le mérite en plus. Bon, soi-disant, des récompenses comme ça ne servent à rien. Mais je crois que insidieusement, ça aide quand même. Mais moi, le premier que j'ai eu, avec un espèce de cadre Louis XVI, c'est un vinyle en or, soi-disant. Donc, je suis descendu de suite chez le bijoutier pour le fourguer. Et le bijoutier me fait du jaune trompette, monsieur Dutronc. Donc ça vaut rien, quoi. À part l'estime et puis les souvenirs.
Jacques Dutronc, il n'a pas sorti d'album depuis quoi? Depuis 2003?
Eh oui, sa dernière échappée fut avec les Vieilles Canailles. Dernière question à Jacques. Descend-il encore avec son fils dans son studio installé dans la cave de sa maison?
Par moment, on se retrouve dedans, mais c'est pas pour jouer en tout cas, parce que je ne joue plus, donc non.
Ça vous désole, Thomas?
Ah, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave.
Non, mais j'y arrive plus surtout.
Ah, tu sais que je veux te faire jouer et moi là quand même.
Ah bon? Ouais, mais j'ai les doigts cassés et tout ça. Bah,
tant pis, il faut que tu essayes, c'est pas grave. Quoi. Je vais le forcer, je suis un enfant tortionnaire. J'ai fait une méthode de guitare et j'ai mis 2 chansons de mon père. Ça commence par Et moi et moi.
Ouais, mais je m'en rappelle plus. Moi. Très compliqué, hein, 3 accords. Je suis à la retraite, bah, merde.
Comment elle se passe, votre retraite, Jacques, d'ailleurs? Est-ce que je peux vous demander comment ça va?
La santé, ça va, sauf que j'ai une sciatique. Ça fait mal, sciatique hernie discale.
Non, il y a un problème de disque.
Sinon, je ne vais plus sur le continent. Je ne vois pas ce qu'on peut faire à Paris en ce moment. On ne peut pas se garer. Alors, bon.
Je crois, Jacques, que le projet de refaire un disque est vraiment maintenant rayé, oublié pour vous. Mais quand on vous entend chanter comme ça, est-ce que donner quelques concerts tous les deux ensemble, c'est quelque chose qui vous amuserait tous les deux?
C'est une question de prix. Non, mais je veux bien, mais il me faut des sous avant pour que je sois motivé. Sinon, la carotte devant moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut avant, comme on dit, il faut que l'écureuil ait ses noisettes.
Thomas, ça vous amuserait ?
Ah bah oui, ça serait génial, c'est sûr, ça serait extraordinaire. Surtout pour être ensemble, quoi, c'est ça, pour l'émotion d'être ensemble.
Il est quand même venu chanter, jouer de la guitare sur les vieilles canailles, Thomas. Comme un con qui prépare un truc dans le genre, j'ai une surprise pour vous ce soir. Il était derrière moi depuis 10 minutes, en train de jouer. Oui, c'est pas terrible. Donc si on fait un spectacle, il faudra se mettre au point.
Eh bien, vous savez quoi ? Depuis l'enregistrement de cet entretien, le rêve est devenu réalité. Jacques et Thomas partiront en tournée tous les deux l'an prochain. Thomas l'a confirmé dans Laissez-vous tenter, le jour de la fête de la musique. Ils chanteront les morceaux de l'un et de l'autre. Mon envie est de retrouver le son originel des années 60 de mon père. Cette énergie, nous disait Thomas. Frenchy, son album est toujours disponible. Thomas Dutronc chantera le 3 août à Marciac, le 12 septembre à Mantes-la-Jolie ou encore le 16 octobre à Vittel.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Steven Bellery et Stéphane Carpentier. Vous, on vous retrouve juste après une courte pause avec Laurent Marsic. Les 100 ans de la radio, est-ce que vous vous souvenez de cette émission mythique sur RTL ? Les routiers sont sympas. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Olivier Bois.
Et on vous retrouve Laurent Marsic.
Dès sa naissance, la première émission que s'assigne la radio est une mission de service aux auditeurs. Dès 1921, on écoute des bulletins météo, les cours de la bourse ou les annonces de spectacles.
Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour aller voir cette revue dont parle tout Paris. Et c'est sur ce dernier conseil que je vous quitte. Bonsoir mes chers auditeurs. À demain.
Mais il existe dans l'histoire de la radio une période pendant laquelle tout le monde ou presque a multiplié, voire démultiplié les émissions dites d'entraide.
RTL et Max Meynier vous disent « Les routiers sont sympas ».
Nous sommes au tout début des années 70 sur RTL. Le champion de l'entraide, c'est évidemment Max Meynier. Ses routiers sont sympas.
Salut les artistes.
Max Meynier qui, à minuit, cédait le micro à un jeune animateur qui intervenait, lui, depuis le Luxembourg, avec une équipe française basée à Paris, chargée d'aider les automobilistes en galère jusqu'à 5h du matin. L'animateur s'appelle Georges Lang et l'émission Station de nuit. Nous sommes en 1972.
Eh bien bonsoir, Station de nuit avec SO, c'est RTL et c'est Georges Lang. Jusqu'à 3h du matin, je vous souhaite à tous une bonne route et une bonne nuit malgré les conditions relativement délicates qui vous attendent cette nuit.
L'idée était donc d'aider les automobilistes perdus ou en panne en s'appuyant sur le réseau de stations-service, sponsor de l'émission. Les patrons de ces stations devenaient capitaines de nuit au service des auditeurs.
Allô Françoise ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bon, en tout cas, Françoise, vous êtes prête à passer toute cette nuit avec nous et votre mari aussi.
Oui, évidemment.
Dans la même veine, ce service aux auditeurs naît en 1976, appelé On est là, animé par Léon Zitrone. C'est l'émission ancêtre de celle qu'anime aujourd'hui Julien Courbet, ça peut vous arriver. Avec Big Léon, les échanges étaient aussi parfois musclés.
Appelez On est là, mesdames et messieurs, bonjour. Appelez On est là, c'est pour tenter d'arranger les choses que nous travaillerons pour vous et dans un aucun autre but.
Allô ?
Allô, monsieur Thor ?
Oui.
Bonjour, monsieur, merci de venir à l'appareil.
Il n'y a pas à me remercier.
Nous sommes en direct.
Je voudrais savoir, c'est de quel droit vous vous permettez de citer des noms et des noms d'entreprises avant d'avoir étudié un dossier ?
Alors, oublions mon cas et le vôtre et parlons de monsieur Santiago. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Être au service des auditeurs donnera aussi lieu à des expériences inédites, presque révolutionnaires. 1973, alors que la radio publique délivre des informations routières en temps réel depuis le centre de Rosny-sous-Bois, RTL décide de s'associer le temps des grands départs en vacances d'été à l'Institut de sondage Ipsos, nom de l'opération spéciale estimation trafic.
RTL, il est 15h30.
18 000 franciliens vont être sondés. Une question leur est posée. Quand précisément, date et heure, prendrez-vous votre voiture pour partir en vacances ? Après traitement, l'Institut de sondage peut fournir heure par heure, non pas un état du trafic, mais mieux, des prévisions de trafic, c'était nouveau, prévisions que l'animateur Max Meynier délivrait aux auditeurs.
Dernière prévision ordinateur IFOP, autoroute du Sud, entre 21h et 22h, vous serez 6000 au niveau de Pont d'Orly, bouchon, à partir de 23h, tout ira bien.
Nous étions en 1973, soit 3 ans avant la naissance de Bison Futé.
À partir de 22h, l'ordinateur prévoit une circulation encore difficile. Je vous rappelle qu'il n'est que 15h30. Vous avez encore toute latitude pour modifier vos horaires.
Merci beaucoup. beaucoup Laurent Marsic, les 100 ans de la radio, ces chroniques que vous retrouvez également sur RTL.fr et sur l'application numérique RTL. Et puis notez-le, à partir de demain 18h30, nouvelle émission sur RTL avec les Jeux Olympiques. Vous retrouverez tous les soirs à 18h30 Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour l'émission On refait les Jeux. Ce sera jusqu'au 8 août évidemment, pendant toute la durée des Jeux Olympiques. La météo, on vous retrouve Peggy Broche. Le temps pour demain,
oui.
Ça s'arrange, ça se gâte?
Alors ça se
je
gâte
me souviens plus.
Par la Bretagne, ouais.
Ah.
Mais il va faire quand même chaud et beau partout ailleurs. On va y venir. Je vais vous parler des températures parce qu'il va faire très chaud à l'est. Autant aujourd'hui c'était à l'ouest, là demain sera vraiment à l'est qu'il fera le plus chaud. 36 pour Clermont-Ferrand, 35 à Lyon, 34 à Bourges, 33 degrés à Nîmes, Marseille et Montauban, 31 à Mulhouse, ainsi qu'à Paris, Alençon, Ajaccio, 28 au Havre et à Bordeaux, 27 à Lille et 25 à Brest. Alors demain, encore une belle journée sur l'ensemble du pays, mais ça se gâte par l'ouest avec l'arrivée des orages en Bretagne dès le matin. Toujours quelques entrées maritimes en matinée, donc des nuages apportés par le vent marin sur l'Aquitaine, un beau soleil ailleurs. Et puis dans l'après-midi, deuxième salve d'orages, toujours sur la Bretagne, des orages parfois violents avec des pluies diluviennes, des chutes de grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h. D'ailleurs, trois départements bretons sont en vigilance orange aux orages, le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, et le ciel sera chargé sur la façade atlantique dans l'après-midi, un léger voile partout ailleurs et ça tournera à l'orage en soirée. Des orages qui pourraient également être localement forts avec beaucoup de pluie vers le Limousin, l'Auvergne en remontant vers la Bourgogne. Donc vous voyez qu'on va vraiment changer de temps. Puis je rappelle aussi que l'Oise et l'Aisne sont toujours en vigilance orange.
Et puis vous le confirmez, ce week-end ce sera plus mitigé et toujours orageux.
Exactement, des orages donc localement forts sur cet axe orageux avec des pluies, de la grêle et du vent des frontières du Nord à l'Auvergne, mais aussi sur la Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin, encore beaucoup de pluie. Dimanche, ces orages vont se décaler, on en aura moins. On va les retrouver sur la façade atlantique, ils seront beaucoup moins forts et moins nombreux, plus localisés. Encore pas mal d'averses entre la basse Normandie et la frontière belge et puis un temps plus calme sur le reste de la moitié nord avec quelques gouttes éparses. Et plus sec et plus lumineux au sud, avec une baisse des températures, on reviendra à des normales de saison.
Merci beaucoup, Peggy Broche. Et il est 19h sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et c'est l'heure du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
À la une ce soir, désormais plus de 200 millions d'Européens complètement vaccinés.
C'est plus de la moitié de la population adulte. L'Europe rattrape son retard et dépasse désormais les États-Unis. Un pass sanitaire pour aller au cinéma, mais pas pour rentrer dans une maison de retraite ou un hôpital. Le vote surprenant de l'Assemblée nationale. Dans ce journal également, des Bretons en sueur. La technique d'Air France face aux passagers qui refusent de se masquer, une amende pour le géant des lunettes trop chères, et puis une haltérophile néo-zélandaise, première athlète transgenre aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Et après votre journal Alexandre, l'apéro club, Julia Molko reçoit ce soir l'acteur Jacques Weber.
RTL Soir.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue? Eh bien la tortue, cette vieille Europe, vient de dépasser le lièvre américain. 200 millions d'Européens sont désormais totalement vaccinés. Ça représente 54,7% des adultes. C'est plus qu'aux États-Unis. La campagne de vaccination américaine avait pourtant démarré en quatrième vitesse. Mais ça fait plusieurs semaines que l'engouement s'est essoufflé, Karine Hutton.
C'est vrai, le président américain avait imaginé 70% de la population vaccinée pour la fête nationale du 4 juillet. Des carottes avaient même été consenties pour les vacciner uniquement sur le papier, mais finalement c'est tout le monde qui a baissé le masque et ça n'a absolument pas poussé plus d'Américains à s'immuniser contre le Covid-19. Alors le taux de vaccination est en forte baisse, moins d'un million de vaccins sont maintenant prodigués chaque jour. Cela n'a pas suffi de voir les dirigeants, les stars, les influenceurs tendre leurs bras. Les jeunes aussi se sont sentis moins concernés puisqu'ils ont une meilleure immunité naturelle. Et puis il y a les amoureux de la liberté, à l'américaine, ceux qui ne supportent pas qu'on leur donne l'ordre de se faire piquer. Eux, généralement, se font convaincre seulement s'ils sont touchés de plus près par la pandémie. Enfin et surtout, les médecins déplorent largement la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux et qui, rappelez-vous, a même fait sortir Joe Biden de ses gonds vendredi dernier.
Aux États-Unis pour RTL, Karine Hutton. La France vient de passer devant les États-Unis si on regarde la proportion de gens vaccinés avec au moins une dose. Il y a eu un sursaut de la vaccination
depuis les annonces d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire.
Le président qui avait notamment annoncé l'extension du pass sanitaire dans les restaurants, dans les trains, dans les centres commerciaux pour le début du mois d'août. Un calendrier serré, mais tout ne se passe pas comme prévu à l'Assemblée nationale.
Les députés sont toujours en train d'examiner le projet de loi sur le pass sanitaire avec un choix surprenant. Tout à l'heure, contre l'avis du gouvernement, l'hémicycle a voté des amendements des Républicains et des Insoumis. Ils voulaient supprimer le pass sanitaire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux ou les EHPAD. Philippe Benassaya, député LR.
Empêcher les malades d'avoir accès aux hôpitaux et aux autres établissements de santé si leur pathologie n'est pas urgente revient, à mon avis, à leur faire encourir des risques potentiellement irréversibles pour leur santé. Par ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, l'interdiction des visites dans les établissements de santé a profondément choqué les Français qui n'ont ni pu voir une dernière fois leurs proches mourants, ni pour les soutenir dans ces moments difficiles. Il est absolument nécessaire de garantir donc un droit à la visite, quel que soit le statut vaccinal du visiteur.
Voici les résultats pour 70 contre 67. Donc l'amendement est donc adopté.
Voilà, adopté, des propos recueillis par Vincent de Rosier pour RTL à l'Assemblée nationale. Sauf surprise, le pass sanitaire devrait bien être requis pour les visiteurs et pour les patients non urgents dans les hôpitaux ou les EHPAD. La majorité devrait supprimer cet amendement lors de la navette parlementaire, c'est-à-dire lorsque le texte reviendra devant l'Assemblée nationale avant son adoption finale.
Le masque, lui, est de retour dans 58 communes du Var.
Dans les rues de Toulon, mais aussi à Sanary-sur-Mer ou encore à Saint-Tropez, face à l'accélération inquiétante de l'épidémie propulsée par le variant Delta. De plus en plus de communes touristiques mettent en place des mesures locales. Sur le littoral vendéen, le masque est obligatoire depuis hier. À La Tranche-sur-Mer, des médiateurs Covid sont envoyés sur les plages pour sensibiliser les vacanciers. Nicolas Bobby.
En t-shirt bleu, les médiateurs anti-Covid de la protection civile rencontrent les estivants.
Je vous offre un petit gel hydroalcoolique. Vous respectez toujours les gestes barrières ?
Oui, toujours, on est vacciné aussi.
Vous êtes vacciné, mais vous ne portez pas le masque ? Oh, quel
dommage. C'est vrai qu'avec les chaleurs, on a du mal à porter le masque et tout ça.
Si jamais vous êtes intéressé, nous sommes en train de faire en fait des tests PCR.
Je fais ma deuxième dose mardi prochain.
Il faut faire un test PCR, oui.
Si vous avez vos deux doses, du coup, non.
Les saisonniers sont également sensibilisés.
Le masque, un bon lavage des mains, comme toujours, depuis que je suis tout petit.
On donne aussi des autotests gratuitement. Est-ce que vous seriez intéressé ?
Pour l'instant, non, ça va.
Il y a urgence, la Vendée a franchi le seuil d'alerte. Plus de 50 cas positifs sur 100 000 habitants, Amandine Fabre de l'ARS.
Il est nécessaire de maintenir les gestes barrières en parallèle de la vaccination.
À La Tranche-sur-Mer, la population explose. Ancien médecin Philippe Brulon est adjoint au maire.
Qu'on passe de 3 000 habitants l'hiver à 100-120 000 l'été, que c'est compliqué de dire aux gens de tout le temps faire attention.
Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les rues piétonnes.
Nicolas Bobby en Vendée pour RTL.
Il n'est pas facile en tout cas de supporter le masque avec la chaleur. 32 degrés aujourd'hui précisément à La Tranche-sur-Mer où on était. Et 32 degrés également à Brest.
Une chaleur brûlante et inhabituelle sur la pointe bretonne. Mathieu, chef du centre nautique de Plougon-Velin, c'est à l'entrée de la rade de Brest.
Alors on est à la sortie de la rade de Brest, mais en effet on a une météo peut-être tropézienne. Peu de vent, une chaleur étouffante, presque accablante. Voilà, les Bretons sont pas forcément habitués à cette météo, mais on est quand même content de l'avoir. Chaque été, il y a quand même une petite vague de chaleur, mais cette année, elle dure. On cherche de l'ombre, comme tout le monde. On va sur l'eau et on cherche les courants d'air. Il y a quand même de quoi naviguer et se rafraîchir. Ouais, non, le bonheur est en mer actuellement. Casquette, crème solaire, évidemment, pour nos stagiaires, puisque moi je travaille ici au centre nautique. En effet, on les rafraîchit, on a des consignes assez strictes sur des rafraîchissements réguliers, c'est-à-dire se mettre à l'eau, se baigner et remonter sur son bateau.
Et voilà des Bretons qui profitent du beau temps. Ils ont raison, ça ne va pas durer. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan sont en vigilance orange pour des orages violents demain.
À Grenoble, une femme interpellée dans le principal centre de vaccination de la ville. Elle a été surprise alors qu'elle validait des faux certificats. Sa garde à vue a été prolongée.
RTL Soir, Olivier Bois.
19h06, la suite de votre journal Alexandre de Saint-Aignan. Le Covid, source de turbulences à bord des avions.
Que ce soit dans les avions ou dans les trains, d'ailleurs, le port du masque est obligatoire. Ça n'a pas changé et pourtant... il y a toujours des récalcitrants visiblement chez Air France. La majorité des incidents sont liés au port du masque, Arnaud Touche, et ça génère parfois des tensions.
Absolument, même si ces situations restent rares et bien souvent maîtrisées par l'équipage, certains passagers ne veulent pas respecter la règle du masque obligatoire à bord. Plus d'un incident sur deux est lié au port du masque. Une donnée confirmée par Christelle Auster, elle est la présidente du syndicat national du personnel navigant commercial.
Ça ne me surprend pas, c'est un peu les retours qu'on peut avoir. Alors ce ne sont pas forcément des incidents qui vont dégénérer, mais c'est la nécessité de rappeler plusieurs fois à l'ordre des passagers et très souvent à notre initiative, mais aussi à l'initiative des passagers qui les entourent et qui sont incommodés par l'idée qu'ils pourraient être contaminés par leurs voisins.
Ces incidents se déroulent bien souvent lors des vols long courrier. Le personnel est formé à gérer ce type de situation. Il privilégie le dialogue, mais si un passager se montre violent, l'intervention des forces de police peut être demandée au départ ou à l'arrivée, avec à la clé parfois une interdiction de vol temporaire.
Arnaud Touche pour RTL. Valérie Pécresse officiellement candidate à la présidentielle, l'actuelle présidente de la région Île-de-France, l'annonce dans une interview au Figaro. Elle veut restaurer la fierté française, je cite. C'est donc la deuxième candidate déclarée XLR avec Xavier Bertrand. Et contrairement à lui, Valérie Pécresse n'exclut pas de participer à une primaire de la droite. En pleine affaire Pegasus, Emmanuel Macron change de téléphone et de numéro. Le chef de l'État fait partie des cibles potentielles de ce logiciel espion. Il a réuni en urgence ce matin un conseil de défense exceptionnel autour de cette affaire et autour des questions plus globalement de cybersécurité.
On va parler lunettes maintenant. Ray-Ban, Prada ou encore Ralph Lauren. Derrière toutes ces marques, il y a une entreprise, Luxottica, qui vient de recevoir une amende record de 125 millions d'euros.
Oui, c'est le premier fournisseur mondial. Il a été épinglé par l'autorité de la concurrence. Luxottica empêchait les opticiens de baisser les prix. Il leur interdisait même de vendre leurs lunettes sur Internet, Julien Fossin.
Vous voyez, les consommateurs ont acheté des lunettes trop chères, lunettes de certaines marques, mais qui sont les plus répandues. En cause, une pratique de prix au détail imposée de la part de fabricants de montures et de lunettes de soleil qui exigent des opticiens tel niveau de prix, aucune concurrence entre eux, et qui interdit les promos, pas de remise pour ces marques, pas de deuxième paire à 1 €. L'autorité de la concurrence qui précise que de surcroît, ce ne sont pas des produits de luxe, que les consommateurs en ont besoin. Deuxième pratique contestée, que ces fabricants, il y en a 3 visés aujourd'hui, Chanel, LVMH et surtout Luxottica, qui fabriquent pour les grandes marques de lunettes, que tous ces fabricants empêchent les opticiens de vendre par Internet, interdit, ce qui leur enlève un canal de consommation majeur, a fortiori en temps de crise sanitaire.
Julien Fautra pour RTL. Il s'en est fallu de peu. Venise échappe à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril. L'UNESCO l'avait proposé, mais c'était avant que l'Italie décide d'interdire les grands navires de croisière dans la lagune.
Et puis on va parler maintenant des Jeux Olympiques de Tokyo où il y aura cette année une athlète d'un nouveau genre.
C'est un événement pour le sport mondial et pour la diversité. Pour la première fois dans l'histoire, une sportive transgenre va participer aux JO au sein de l'équipe néo-zélandaise d'haltérophilie, Nicolas Burnon.
Dans le centre sportif de Carrara en Australie, ce 9 avril 2018, l'épreuve d'haltérophilie se tient au jeu du Commonwealth. Laurel Hubbard, larges épaules, cheveux noirs en queue de cheval, monte sur scène pour écrire l'histoire. Elle est la première athlète transgenre à représenter la Nouvelle-Zélande.
Je suis qui je suis, je ne suis pas là pour changer le monde, je veux juste apprendre à être moi et faire ce que j'ai à faire. La science a évolué, la position du Comité Olympique International a aussi évolué. La plupart des gens ne réalisent pas que je réponds au règlement et il a été établi il y a plus de 14 ans.
Née dans un corps d'homme, la sportive a effectué sa transition en 2013. À l'âge de 35 ans, elle a été reconnue comme athlète femme. Ses niveaux de testostérone sont inférieurs à ceux autorisés par le CIO. Depuis, sa compatriote Tracey Lambrecht a été contrainte de changer de catégorie.
Je suis vraiment fâchée. J'ai reçu un appel de mon entraîneur qui m'a dit que mes records avaient été battus. La Fédération nationale m'a dit que je devais perdre 14 kilos ou arrêter ma carrière. Dans le sport, il y a des raisons pour lesquelles il y a des catégories hommes et femmes. On ne peut pas tout changer d'un coup.
Promise à une médaille à Tokyo, Laurel Hubbard compte bien faire évoluer les mentalités et ouvrir la voie à l'intégration plus large des athlètes transgenres aux Jeux Olympiques.
Un reportage signé Nicolas Burnand pour RTL.
Et la cérémonie d'ouverture des JO, c'est demain. Les deux porte-drapeaux français, Samir Aït Saïd et Clarisse Agbenienou, seront les invités de Stéphane Carpentier demain matin à 7h40.
Avant même le début officiel des Jeux, le tournoi olympique a mal démarré pour les Français en football, écrasé par le Mexique d'entrée de jeu, 4-1. Prochain match pour les Bleus, ce sera dimanche matin contre l'Afrique du Sud. De son côté, notez que le Brésil, tenant du titre, a battu l'Allemagne pour son premier match 4-2.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour le flash. La météo, Peggy Broche, les orages reviennent donc demain par l'ouest.
Oui, exactement Olivier, ça va concerner la Bretagne essentiellement. Demain matin, comme dans l'après-midi, les orages seront d'ailleurs beaucoup plus violents en deuxième partie d'après-midi. Trois départements bretons sont déjà en vigilance orange aux orages, le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan. Donc des orages violents, beaucoup, beaucoup de pluie, des chutes de grêle, de fortes rafales de vent, donc soyez extrêmement vigilants. Ailleurs, un temps sec, quelques grisailles sur l'Aquitaine le matin, comme aujourd'hui, mais ça va se dissiper. Très beau sur le reste du pays. Et puis dans l'après-midi, le ciel du coup va se charger sur la façade atlantique. Il sera voilé ailleurs, hein, sur les trois quarts du pays, plein soleil sur les frontières du Nord, ainsi que près de la Méditerranée. Mais attention, parce qu'en soirée, des orages, parfois violents également, vont à nouveau arriver entre le Limousin, l'Auvergne et en remontant vers la Bourgogne dans la nuit. Les températures, elles seront en hausse à l'est et en baisse à l'ouest. 23 degrés à Cherbourg, 24 à Biarritz, 26 à La Rochelle, 27 degrés à Nice, ainsi qu'à Abbeville, 30 à Metz, 31 à Paris et Besançon, 32 à Agen et Auch, 34 à Montélimar, 35 à Grenoble, 36 à Clermont-Ferrand. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours l'Oise et l'Aisne qui sont en vigilance orange pour crue.
Merci beaucoup Peggy Broche d'avoir été avec nous dans ce RTL soir qui se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 19h et presque 14 minutes sur RTL. Dans un instant, Julia Molcou, dans son apéro club, reçoit l'acteur Jacques Weber. A tout de suite sur RTL.